Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bienvenue au Désordre Mondial, je suis votre arbitre Rachel Marsden. Comment le Canada accueille-t-il les réfugiés syriens? On a souvent l'impression que le pays gère la demande d'asile des migrants mieux que l'Europe. Mais comment exactement? Déjà, le pays tire avantage du fait que ce serait beaucoup plus loin du Moyen-Orient que l'Europe. Cette distance fait que le pays ne serait pas inondé d'une vague migratoire, sauf par choix. Que sont alors ces choix? D'après les chiffres officiels, plus de 28 000 réfugiés sont arrivés au Canada depuis novembre dernier, c'est-à-dire lors d'une période de 8 mois. Plus de 15 000 sont sponsorisés par le gouvernement canadien qui paye tous les frais liés à leur accueil et soutien. Un autre 10 000 sont soutenus par les sponsors privés, dont les associations et citoyens individuels ou des familles qui les prennent en charge. Plus de 5 000 se sont installés au Québec. Un autre 5 000 à Toronto, la plus grande ville du Canada. Presque 2 000 à Vancouver, la troisième plus grande ville du pays. Malgré le fait que le Canada serait le deuxième plus grand pays au monde en surface géographique, on semble vouloir surcharger les centres urbains de réfugiés. Ceci malgré le fait que le gouvernement avait promis aux Canadiens que les réfugiés se disperseraient éventuellement à travers tout le pays. Franchement, je ne vois pas pourquoi ils auraient intérêt à faire cela. Comme dans tout autre pays, c'est dans les grandes villes où on a le plus de chances à trouver du boulot. Tout Canadien est séduit par les lumières et l'action des grandes villes à la suite de leurs études. Sauf peut-être s'ils bossent dans les industries minières et pétrolières, des métiers qui s'exercent dans les régions et villes plus isolées. Si les nouveaux arrivés ont bien intérêt à travailler, ce qui en principe devrait être le cas, quel serait alors l'intérêt des réfugiés de réellement s'installer dans les petites villes à travers le pays? Et leur accueil n'est pas terminé non plus, puisque d'après le site du gouvernement fédéral canadien dédié à la transparence, ce qui est devenu prioritaire afin d'apaiser les craintes des Canadiens qui croyaient que les nouveaux arrivés étaient reçus beaucoup trop vite, beaucoup trop nombreux, et méfient alors de ce qu'on leur dit sur les contrôles de sécurité faits par les autorités de service dans les camps de réfugiés au Liban, en Turquie et en Jordanie. Le pays accueillera environ un autre 20 000. Le gouvernement du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rassuré ces citoyens que seulement les familles et mères célibataires seraient acceptées. En principe, le rejet d'hommes célibataires et sans famille est censé de réduire le risque sécuritaire, étant donné que le profil typique de djihadistes serait plutôt celui d'un mec sans famille, célibataire. En revanche, le Premier ministre a aussi voulu exceptionnellement assurer l'accueil des hommes qui sont célibataires mais néanmoins homosexuels et risquent d'être persécutés alors au Moyen-Orient. Mais franchement, comment vérifier si un réfugié mâle quelconque est homosexuel ou pas? Pour qu'un djihadiste puisse venir au Canada sans famille, il ne faudrait alors que dire qu'il est gay? Puis en rentrant au Canada, il se refoule. Il en aurait bien le droit. L'intégration des migrants ne s'agit pas uniquement de questions de sécurité, mais aussi d'emploi. Le taux de chômage au Canada a augmenté de 2%, c'est-à-dire jusqu'à 7,5%, depuis le début de la crise économique mondiale en 2008. Encore plus important, les taux de Canadiens travaillant à temps plein, c'est-à-dire plus de 30 heures par semaine, a diminué d'une manière assez drastique depuis 2006. Où travailleraient alors les nouveaux arrivés, parmi ceux qui bossent? Beaucoup se déclarent ouvriers dans le secteur de la construction immobilière, mais ce n'est pas un secteur qui est du tout en croissance au Canada dans la proportion que le gouvernement accueille cette nouvelle main-d'œuvre. Les Canadiens ont généralement un vrai sens du devoir humanitaire, mais parfois trop à l'exclusion des considérations fiscales et sociales. Les services d'intégration sont surchargés, elle le disait elle-même. On a l'impression que, contrairement aux services aux réfugiés économiques qui profitent des faibles frontières européennes pour rechercher du travail, ceux qui arrivent au Canada sont vraiment les plus pauvres et sans éducation, sans capacité de langue et sans la base d'éducation pour pouvoir en apprendre une. Que contribuerait-il alors à l'économie du pays? Comment vont-ils réellement intégrer dans la société canadienne? Tout réfugié qui est sponsorisé par le gouvernement canadien et non pas par un sponsor ou association privée reçoit de l'aide financière de la part du gouvernement fédéral pendant un an, c'est-à-dire un maximum de 25 000 dollars canadiens par famille et la moitié pour une seule personne. Mais que ferait-il après ça? Réellement, ils vont vivre en dessous du seuil de la pauvreté, même avec les allocations sociales de base qui sont accordées aux gens qui sont au chômage. Ils ne le trouveront pas suffisant pour soutenir leur mode de vie, et surtout dans les grandes villes canadiennes. Bon, on peut dire que c'est un moyen un peu malin, peut-être, de les enfin faire disperser à travers le grand paysage canadien. Tout est beaucoup moins cher dans le Grand Nord, par exemple. Il reste à voir si les migrants réussiront au Canada ou s'ils retourneront au Moyen-Orient, dans leur pays d'origine, lorsque la guerre serait terminée. En tout cas, tout ceci serait une expérience très précaire qui risque de vite dépasser les bornes. Avec moi aujourd'hui, pour discuter de ce sujet, François Audet est professeur à l'École de sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Il a également été Visiting Scholar au programme on Humanitarian Policy and Conflict Research de l'Université Harvard. Avant d'entreprendre une carrière académique, il a cumulé plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'aide humanitaire. Il a notamment été chef de la délégation régionale de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien pour la Croix-Rouge canadienne et directeur des programmes pour Care Canada. Il a travaillé plusieurs années en Amérique latine et en Asie du Sud-Est pour le compte du Centre canadien d'études et de coopération internationale, où il a agi à titre de chef des projets d'aide humanitaire. Bienvenue à l'émission, François.
Oui, bonjour.
Alors, ici, en Europe, on a vraiment l'impression que le Canada gère beaucoup mieux la situation des migrants syriens et migrants provenant du Moyen-Orient que l'Europe. Et bien sûr, il y a des questions géographiques qui définissent l'écart, qui font qu'il y ait un écart entre les deux situations. Mais vous avez l'expérience du terrain par rapport à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est?
En fait, effectivement, je pense que l'enjeu principal, il est d'ordre de l'isolement géographique du Canada, comme vous le savez. Donc, deux grands océans nous séparent. Vers le nord, il fait très froid, et vers le sud, on a nos amis des États-Unis qui offrent une très vaste frontière à une migration illégale qui est presque impossible chez nous. On peut compter, en fait, sur les doigts d'une main pratiquement, les immigrants illégaux qui rentrent au Canada annuellement. Très souvent, ça sera dans des containers à travers des bateaux ou à l'intérieur d'avions, etc. Mais c'est très limité. On n'a pas du tout le même phénomène qu'on voit en Europe ou même aux États-Unis, notamment avec la migration des populations d'Amérique centrale, notamment, et d'Amérique du Sud qui veulent traverser le Mexique pour se rendre aux États-Unis. Donc, le Canada, de ce point de vue-là, a une position relativement particulière étant donné cet isolement-là. Et ce qu'il met aussi dans une position particulière pour percevoir et gérer, c'est un terme qui me plaît plus ou moins compte tenu qu'on parle d'humain, là, mais gérer la population d'immigration ou la population de réfugiés, en fait, qui souhaitent demander asile dans un pays comme chez nous. C'est-à-dire que dans le cas qui nous intéresse, notamment pour la crise des réfugiés syriens, étant donné une situation que vous connaissez très bien de votre côté de l'Atlantique, ben, étant donné notre situation à nous, ben, le Canada, cette année, c'était dans un débat électoral, on était en pleines élections,
oui,
donc c'est
sûr.
Devenu un enjeu électoral de savoir quel est le nombre, en fait, de réfugiés syriens que le Canada devait ou pouvait accueillir ici cette année. Et ce débat-là a été relativement important dans l'élection. Et bon, au bout du compte, pour ceux qui ne savent pas, ce sont donc les libéraux de Justin Trudeau qui ont gagné. Et c'est eux qui avaient misé pour le chiffre le plus élevé, c'est-à-dire 25 000 réfugiés syriens qui sont
depuis
arrivés
novembre dernier.
Au Canada depuis... Depuis, en fait, ils sont arrivés, ouais, effectivement, de novembre à février 2016, en quelques mois, en trois mois. Le gouvernement a mis beaucoup de pression pour que l'appareil administratif accueille 25 000 réfugiés et on a réussi.
Et maintenant, on accueille encore plus. Il y a des autres qui viennent maintenant. Alors, le taux va monter encore au-delà de 25 000, c'est ça?
Oui, il y a eu un second engagement pour différentes raisons, évidemment. Le premier, c'est que, bon, je pense qu'on est tous d'accord de la gravité et du drame humain de la Syrie et qu'il faut effectivement soutenir la population. Mais de porter un regard unique sur une population de réfugiés, c'est un peu fermer les yeux ou de diminuer l'importance du drame humain qui se vit ailleurs dans le monde, comme vous le savez. Effectivement, l'idée étant, j'ai moi-même milité à ce niveau-là, au niveau du débat public, en tout cas, pour qu'on puisse ouvrir nos frontières, mais pas juste à la communauté syrienne, étant donné que, ben, comme vous le savez, là, il y a 65 millions de personnes qui ont été déplacées par les conflits cette année. On est au-dessus de 20 quelques millions de réfugiés, donc des gens qui ont quitté leur pays, d'origines diverses, autres que la Syrie. Alors oui, il y a donc la communauté syrienne, évidemment, mais pas juste la communauté syrienne, parce qu'il y a des dizaines d'autres communautés, comme vous le savez, d'Afrique, du Moyen-Orient, qui ont besoin de
ces gens-là proviennent des pays qui sont vraiment dans des situations de conflit graves, y incluant le terrorisme, des actes terroristes. Alors comment gérer la situation afin d'importer des risques au Canada?
Oui, ça a été évidemment parallèlement à l'enjeu de l'ouverture des frontières que je viens de mentionner, qui est aussi un enjeu que vous connaissez. C'était aussi l'enjeu de la sécurité et sécurité à différents niveaux, évidemment sanitaire, mais évidemment l'enjeu principal était au niveau de la sécurité que pouvait soulever la dimension que au sein de ces milliers de réfugiés qu'on accueillait là allait avoir des individus mal intentionnés ou de provenant, motivés en tout cas par une forme de radicalisation. Tout ça s'est fait parallèlement, comme vous le savez, à ce qu'on a vu, aux attaques
bien
en
sûr.
France notamment, et aux différents enjeux là, des tensions en Europe. Alors nous, on écoutait les échos médiatiques de ça, évidemment avec beaucoup de compassion. Et d'un autre côté, on est ici en disant, on veut, nous, en recevoir aussi des réfugiés. Donc, il y a eu malheureusement, puis je pense qu'il l'a partout sur la planète, un amalgame assez facile là, du raccourci de dire que, évidemment, s'ils sont réfugiés syriens, automatiquement, ils sont des terroristes, littéralement. Je pense qu'il y a eu une éducation à faire importante.
Oui, mais en
ici,
même temps,
Canada,
comment éviter que... Je comprends bien ce débat-là et le fait que c'est pas automatique que les gens qui viennent en tant que réfugiés vont avoir des intérêts terroristes, mais comment éviter les quelques personnes qui auraient peut-être un intérêt? Comment éviter que eux ils pourraient venir au Canada et rentrer dans le pays sous prétexte humanitaire?
Ouais. En fait, je pense qu'on était tous conscients, puis j'espère que tout le monde l'a bien compris ici, et comme partout ailleurs, que le risque zéro n'existe pas. Autrement dit, dans n'importe quelle communauté, incluant même ici chez nous, les Canadiens d'origine, il y a des gens mal intentionnés qui, tôt ou tard, peuvent faire des crimes. Alors, c'est la même chose avec les réfugiés que nous pouvons recevoir. Et là, oui, il y a une probabilité que se dissimule au sein de cette sélection-là des éléments, des gens qui ont des intentions terroristes. Cela étant, la manière dont le Canada a procédé, c'est en suivant évidemment le protocole du Haut Commissariat aux réfugiés, c'est le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, qui a fourni les listes initiales au Canada, parce que, évidemment, comme je vous le mentionnais, nous, on n'a pas d'immigration illégale massive sur notre territoire ou à nos frontières.
Donc, pourquoi est-ce que vous croyez que c'est le cas? Est-ce que c'est une différence de politique entre le Canada et les États-Unis qui fait qu'eux, ils ont un vrai problème d'immigration clandestine et le Canada, non?
Écoutez, c'est une bonne question. Il y a ce que je mentionnais au départ, évidemment, l'isolement géographique. Il y a peut-être aussi une question du climat. Ça peut paraître un peu futile pour plusieurs, mais clairement, quand on est habitué de pas vivre dans un pays où il fait pas en dessous de zéro 6 mois par année, et chez nous, comme vous le savez, c'est pas des caricatures. Il fait très froid parfois. Il y a peut-être moins le désir de monter aussi haut. Et là, évidemment, nous, notre l'immigration clandestine aurait beaucoup plus de logique de provenir d'Amérique du Sud, notamment, parce que bon, ça se fait plus facilement à pied. Mais je pense que le rêve américain, notamment de la communauté latino-américaine, est très forte. Il y a, comme on sait, j'ai pas le pourcentage, mais un grand pourcentage de la communauté des États-Unis provient d'Amérique latine, sont latino-américains. Et je pense que le désir d'avoir une vie meilleure aux États-Unis pour la communauté d'Amérique latine est très forte. Évidemment, il y a, comme je vous le disais, des cas où les gens arrivent, mais c'est quelques centaines d'individus par année. Et c'est des cas de figure qui sont, entre guillemets, très gérables au niveau sécuritaire et au niveau de l'administration publique d'ici. Donc, dans le cas de la communauté syrienne, on a donc eu fait appel au HCR qui nous a fourni les listes initiales. Et le Canada, par la suite, a fait ses devoirs, comme dans n'importe quelle autre situation, où là, il y a eu une grille importante de croisement d'informations avec Interpol, avec la CIA, pour évidemment identifier s'il n'y avait pas là, à l'intérieur de cette communauté-là des individus qui étaient déjà fichés. Et puis, par la suite, d'identifier les personnes les plus vulnérables aussi, c'est-à-dire, bon, évidemment, les familles, les personnes âgées. Oui, allez-y.
Ça évoque alors la question, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire le tri comme ça en travaillant avec Interpol, en travaillant avec les services de renseignement, et ici en France, on les laisse venir comme ils veulent et sans savoir qui vraiment ils sont avant qu'ils soient déjà dans le pays? Pourquoi est-ce que le Canada peut faire ça et l'Europe, ça leur échappe?
Écoutez, encore une fois, tout est une question de logistique. La population sur laquelle le Canada a identifié son échantillon, si vous voulez, de réfugiés, est déjà, elle, sortie de la Syrie, n'est pas la population qui se trouve en Europe. Donc, c'est évidemment une espèce de... Et là, je le dis avec un vocabulaire très managérial, mais en sous-traitant littéralement, notamment le Liban et la Jordanie, qui reçoivent, comme vous le savez, une grande quantité de réfugiés syriens. Et ce sont les consulats et tout l'appareil consulaire canadien sur place qui avaient fait le travail d'identification de la communauté syrienne qui était intéressée déjà à venir au Canada d'une part, et puis qui répondait aux critères que le gouvernement canadien s'était doté, notamment en matière de sécurité. Et donc, on avait, et là, encore une fois, c'est un mauvais vocabulaire parce que c'est toujours très délicat, mais on avait comme pays, le Canada, le luxe, hein, littéralement, de pouvoir faire la sous-traitance à travers notamment le Liban et la Jordanie qui sont en fait eux-mêmes les pays intermédiaires dont les populations vivent souvent dans des camps ou en tout cas dans différentes conditions assez difficiles, mais qui étaient quand même dans un autre pays qui n'était pas en Europe. On a dépêché sur place des équipes, notamment avec l'armée canadienne, avec la Croix-Rouge canadienne et les instances du gouvernement, et la présélection s'est fait là-bas. Donc, autrement dit, on a littéralement nolisé des avions pour aller chercher des réfugiés. On a fait une espèce de pont aérien pendant plusieurs mois de va-et-vient. Mais quand les Syriens embarquaient dans les avions et arrivaient au Canada, ben tout le paperwork en bon français, donc toute l'administration, les tampons, les autorisations avaient été faits. Et les Syriens qui débarquaient au Canada, à Montréal, entre autres, et à Toronto, étaient déjà des Canadiens. Donc, avaient toutes déjà en main les documents pour, littéralement, du jour au lendemain, devenir un citoyen canadien. Donc, tout avait été fait outre-mer. Et ce qu'on avait à faire, c'est canaliser des avions pour aller les chercher. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte dans lequel les migrants débarquent aux frontières ou dans l'illégalité de notre territoire.
Et aujourd'hui, comment ça se passe avec l'intégration de ces gens dans la société canadienne? Est-ce qu'ils parlent la langue? Est-ce qu'ils sont capables de se débrouiller? Du coup, comment ça se passe?
Ouais. Écoutez, so far, so good. Hein? Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire, bon, évidemment, il y a des cas de figure de gens qui ont été, qui ont plus de difficultés. Ça a été un peu documenté, là, des certaines familles là, qui vivent encore reclus, qui ont de la difficulté à rentrer au sein de la société en général. Mais de manière très générale, et la grande majorité des familles qui sont arrivées ici se sont intégrées très rapidement. Je peux parler pour mon cas personnel à moi parce que je parraine, parce que c'est sous forme de parrainage. Hein. Donc quand chaque personne ou chaque famille qui arrive ici au Canada est généralement jumelée avec une famille de Canadiens qui évidemment assure la logistique, aide l'intégration, à trouver un logement, à trouver des cours de langue, à trouver les écoles pour les enfants. Donc bref, l'ensemble de la vie courante qui facilite l'intégration, éventuellement aussi un emploi. Et dans le cas qui nous concerne, ma famille, donc avec mon frère, on parraine une famille et ça a été extrêmement rapide dans ce cas-là, en tout cas très rapide. Il y a entre autres ici un entrepreneur libanais là, qui a une chaîne de supermarchés et en quelques semaines, et aussi il avait fait il s'est engagé en justement à pouvoir aider les réfugiés syriens qui cherchaient de l'emploi. Donc en quelques semaines, le papa de la famille trouvait un emploi là-bas. Les enfants étaient déjà dans le système scolaire, dans des niveaux intermédiaires.
Mais est-ce que les réfugiés qui sont sponsorisés, pas par les intérêts privés, des familles privées, mais par le gouvernement, est-ce qu'ils sont également traités et est-ce qu'ils réussissent à trouver du boulot et s'intégrer aussi facilement?
Oui, c'est une bonne question. Sur les 25 000 initiaux qui sont arrivés ici au Canada, la grande majorité était sous le parrainage privé. On peut estimer à peu près entre 18 000 et 20 000, donc des 25 000 étaient sous parrainage privé, donc d'individus, par exemple, comme moi, qui aident des familles syriennes. Et dans ces cas de figure-là, l'intégration s'est faite assez rapidement et assez facilement. C'est plus difficile pour les réfugiés qui arrivent et qui sont parrainés par le système administratif classique, donc un parrainage politique, comme on l'appelle. Et ce parrainage politique est plus difficile parce que justement, il n'y a pas de contact humain. On imagine bien que si la famille débarque avec quatre valises, ils ont tout laissé de l'autre côté de l'océan, ils sont bien contents d'avoir des gens souriants qui les accueillent ici et qui leur donnent un coup de main sur comment ça fonctionne. Le gouvernement, évidemment, offre des services, mais ce sont des services qui sont, sans rien enlever à mon gouvernement, très déshumanisés. Donc, c'est de l'appareil administratif dans certains
cas. Oui, c'est l'argent.
Des agents, effectivement. Et il y a eu quand même un effort important à travers notamment la Croix-Rouge canadienne et à travers les organisations communautaires ici pour faciliter l'intégration politique, mais elle est toujours plus difficile. L'autre chose aussi, c'est que le parrainage qui a eu lieu était aussi en grande partie facilité par la communauté syrienne résidente au Canada.
Au Canada,
donc,
bien sûr.
Voilà, ça c'est très facilitant parce qu'il y avait déjà des Syriens ici et c'est eux qui ont initialement permis l'arrivée notamment d'une grande partie de ces réfugiés-là parce qu'il y avait donc des liens familiaux et on peut l'imaginer pour n'importe qui, pour moi et pour vous, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas si on a déjà un cousin, une cousine ou un parent proche qui peut nous faciliter la vie.
François Audet, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Un sujet très fascinant et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pourrez réécouter l'émission à tout moment sur desordremondial.com ou sputniknews.com.
Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.